et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Un grand bol d'air aujourd'hui avec une balade en montagne, un roman surprenant sur un personnage repoussant et une réflexion caustique sur les pouvoirs de Dieu. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
C'est le nouveau roman de Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française. Il publie Les Flammes de Pierre chez Gallimard et ose un roman d'amour inspiré par la littérature de montagne. Nous recevrons aussi la Suissesse Rebecca Gisler pour un premier roman étonnant, un voyage atypique dans l'univers d'un homme-enfant sans hygiène et difforme, un regard décalé sur la différence. Et puis nous saurons enfin ce que Dieu peut faire pour les âmes égarées. Tonino Benacquista et Nicolas Barral racontent en BD les sauvetages moraux de leurs personnages, aidés par des célébrités envoyées par Dieu. Les dieux des livres, plus communément appelés libraires, sont avec nous comme chaque semaine. Ils interviendront tout au long de cette émission. Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire en Suisse dans la librairie Une Petite Prose à Boudry. Tout va bien dans
Tout
les cieux suisses?
Oui, un peu frais, mais autrement ça va très bien.
En France, c'est Thomas Auxerre qui est avec nous. Bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Puteaux, dans la librairie de l'Amandier. Tout va bien?
Tout va plutôt bien.
D'habitude, c'est moi qui fais cette blague. Et vous savez qu'on me la reproche maintenant. Donc... J'ai essayé de ne pas la faire, mais bon, je vous la laisse. Bon, si ça va, tout va bien. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Bruxelles, dans la librairie Le Public par Filigrane.
Eh oui.
Tout va bien pour vous aussi.
Tout va super, Emmanuel.
Au Canada, c'est Mike Vienno qui est avec nous de la librairie Monet à Montréal. Bonjour Mike.
Bonjour, ça va bien?
Ça va et vous? Dans le brouillard, je crois, hein, en ce moment.
Oui, le brouillard ce matin.
On commence avec une anecdote de libraire vous concernant, Mike.
Ben oui, écoutez, moi j'étais tout jeune libraire, on parle d'il y a 25 ans, on ouvrait une nouvelle librairie et soudainement il y a une dame qui se présente devant moi et qui me demande un livre qui avait été mis de côté. Je lui demande son nom et elle me dit Anne Hébert. Donc je me penche, je ramasse pour le livre et sur le coup je m'aperçois que j'ai devant moi la Anne Hébert. Je suis complètement décontenancé, je me relève et la seule chose que j'ai pu lui dire c'est « Vous êtes la Anne Hébert ?» Et elle m'a répondu tout simplement « Oui, c'est moi. »
Oui, grande auteure, hein, Anne Hébert.
Oui, j'étais déjà très amateur d'elle, mais quand je l'ai vue, et juste pour l'anecdote, je me souviens pas du tout quel livre elle a acheté.
Ah ben, c'est dommage. Vous auriez pu avoir ça dans les,
oui, je sais,
dans les archives.
Bon. Oui, je prends un peu.
Allez, merci pour cette anecdote. On va enchaîner avec une musique magnifique choisie par Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française que l'on accueille tout de suite. Et bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez donc choisi Ainsi parler Zarathoustra de Strauss. Pourquoi cette musique pour illustrer votre livre sur la montagne?
Parce que c'est difficile pour moi de choisir une musique autour de la montagne et je trouve que cette ouverture comme ça de Zarathoustra donne un petit peu, un peu une impression du tragique qu'on peut avoir quand parfois on ouvre la fenêtre et qu'il y a l'orage qui se précipite sur le Mont Blanc.
D'accord, ça n'a rien à voir avec vous en fait.
Non, ça n'a rien à voir avec la montagne.
Parce que ça aurait pu, Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française, on l'accueille avec cette musique-là, c'est possible aussi.
Oui, non. Je sais pas, cette espèce d'impression parfois quand on regarde les cieux de montagne vont s'ouvrir et qu'il y a comme ça des figures mythologiques qui vont venir. Moi je vois pas de maison de chez moi à la montagne, mais je vois le ciel sous toutes ses formes et par tous les temps. Et cette musique m'évoque ça.
Bien, alors on vous sait passionné par la montagne. Et vous le prouvez avec votre nouveau roman « Les flammes de pierre » paru chez Gallimard. Vous êtes vous-même alpiniste. Avec votre ami et comparse des défis les plus dingues, Sylvain Tesson, vous êtes parti un jour escalader l'aiguille de la République dans le massif du Mont-Blanc. Et lors de la descente au coucher du soleil, une descente que vous racontez, un peu compliquée d'ailleurs, vous lancez un débat sur la littérature de montagne.
Oui, parce qu'on avait été faire cette voie qui a été ouverte en 1905 par un moyen un peu particulier, puisque le premier ascensionniste a utilisé une arbalète pour arriver jusqu'au sommet. Voilà, et on avait refait ça, puis on a perdu du temps au sommet, etc. Puis quand on s'est retrouvé dans les derniers appels, il faisait nuit noire, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. D'habitude, on a des conversations lamentables, et là, peut-être parce qu'on avait peur, on s'est mis à parler d'autre chose, et on a fait à parler de la littérature de montagne, qui, à mes yeux, je dirais pas qu'elle existe plus, il y a quelques beaux exemples récents, mais enfin qui, dans l'ensemble, a un peu fléchi par rapport à l'âge d'or, quoi, les Frison Roche et autres.
Ouais, alors c'est vrai que vous dites que beaucoup écrivent sur la montagne, racontent leurs expériences, mais presque plus personne ne raconte des histoires, comme effectivement Frison Roche ou Henri Troya et sa neige en deuil, par exemple.
Oui, Troya n'était pas vraiment un alpiniste.
Non,
hein,
mais il y a ce livre qui a marqué quand même.
Oui, absolument. Non, c'est vrai qu'il y a eu un âge d'or, probablement parce qu'il y avait à ce moment-là la figure du guide, qui était une figure tragique, et les romans de cette époque s'organisaient autour de ça. Bon, aujourd'hui, le guide, c'est pas forcément une figure tragique, et d'ailleurs, moi, il y a un guide dans mon livre, mais au départ est plutôt un guide mondain qui n'a rien du guide de l'époque de Frison Roche avec les chaussettes rouges et puis le piolet en bois. C'est fini,
il est plutôt moderne, ce guide,
il est moderne, mais c'est quelqu'un surtout qui ne sait pas très bien au départ pourquoi il est à la montagne. Il a accompagné son frère qui lui est un grand guide, et puis tout le roman va s'organiser autour de ça, c'est-à-dire l'approfondissement de cette relation qui porte à la montagne et qui va découvrir à travers une histoire d'amour.
C'est ça. Donc du coup, vous y collez en fait à la littérature de montagne, avec une histoire d'amour, la rencontre comme ça entre un guide et une jeune femme qui, elle, aime la montagne. C'est une histoire un peu à l'eau de rose, hein, c'est pas très palpitant, je dirais, dans l'histoire, parce que ce qui semble vous intéresser, c'est le décor, la description des paysages, l'histoire comme ça qui sert de prétexte à de magnifiques descriptions formidablement écrites.
Oui, il y a un aller-retour, si vous voulez, entre ce qui se passe dans ce couple qui va se rencontrer de manière un peu superficielle au départ. Et puis les relations avec la montagne. Et au départ, ils sont superficiels dans leur relation entre eux, mais aussi avec la montagne. C'est-à-dire qu'ils viennent quand il fait beau, quand il fait soleil, ils viennent boire le vin chaud après, la presqu'île, machin, etc. Et puis, au fur et à mesure que, finalement, les choses vont se tendre, qu'ils vont se séparer, se retrouver, que les choses vont devenir plus sérieuses entre eux, c'est la montagne aussi qui va changer dans le rapport avec eux. Et finalement, il y a une dimension de plus en plus spirituelle et de plus en plus profonde, forte, qui va s'établir à la fois entre eux et avec la montagne.
Oui, mais vous décrivez beaucoup de choses, Jean-Christophe. C'est très précis. Il y a des descriptions incroyables, c'est flamboyant, parfois c'est un peu Balzac à la montagne, ce livre, Jean-Christophe.
Oui, le pauvre, je ne sais pas s'il aurait tellement aimé, mais...
Pourquoi
mais c'est vrai, c'est ça dont j'avais envie de parler, c'est-à-dire que la montagne, moi, elle m'a illuminé depuis des années, j'ai des tas de visions comme ça, enfin de flashs dans la mémoire sur la montagne. Et le problème, c'était qu'il fallait les organiser d'une manière qui soit romanesque, c'est-à-dire qu'on n'évoque pas la montagne pour la montagne, c'est parce que finalement, tout le monde s'en fiche. La question, c'est d'accompagner le lecteur, même celui qui n'est pas forcément montagnard, un peu, vers ce milieu, vers ce monde, en lui montrant autre chose que ce qu'il voit sur des prospectus pour l'envoyer au sport d'hiver.
Lui faire sentir la montagne.
Faire sentir la montagne dans toutes ses dimensions et dans partout les temps, si vous voulez. C'est ça surtout qui est important, c'est qu'il n'y a pas que le soleil, il n'y a pas que l'herbe verte et la neige, etc. Non, il y a aussi quelque chose de beaucoup plus tragique, beaucoup plus âpre, si vous voulez. Moi, je suis en face du massif du Mont Blanc, c'est du granit. Le granit, ça peut être très beau, ça peut être rouge feu quand il y a du soleil, mais c'est quand même la pierre dont on fait les tombes. Vous voyez, et quand il fait froid, quand vous êtes pris dans un endroit un peu difficile, eh bien, c'est la mort que vous avez en face de vous.
Oui, c'est dangereux.
C'est dangereux. Ouais. Le danger est là, mais il y a une forme de peur aussi. Mais le plaisir, justement, est irrigué par cette peur quand on peut la dominer.
De franchir aussi la montagne, c'est un peu ce que vous faites, avec des références dans ce livre assez improbables comme celle-ci. Écoutez.
On y va. Allez. Assure tes prises.
Ça va.
Attention, ça glisse. Assure bien tes appuis. Bon, une fois en haut, fixe le filin. Et toi, tu me rejoins. D'accord ?
D'accord.
Ce film incroyable.
De ça,
Cliffhanger.
Ah, c'est Cliffhanger, oui.
Vous citez, avec Sylvester Stallone.
Absolument, oui, oui. Mais bon, si vous voulez, Cliffhanger, c'est... Voilà, c'est du cinéma, je dirais.
Oui, bon, ah oui, c'est clair. Oui. Enfin, si on peut dire.
Voilà, on vit pas toujours les choses de la même manière. Oui. Surtout, vous voyez, le cliquetis, le matériel, tout ça.
Oui.
Je dirais pas que c'est fini, mais disons que moi, je suis arrivé à la montagne à un âge où justement, à une époque où justement, c'était l'escalade libre, c'était plutôt Patrick Edlinger, c'était une autre époque de la montagne. Plus hédoniste. Enfin, elle avait éliminé le tragique, ou voulu éliminer le tragique. Mais vous voyez, Patrick Edlinger, qui était le symbole de ça, qui était l'ange blond, qui montait en montagne, comme on disait, à Manu, il est mort alcoolique dans son escalier à 50 ans. Mmh. C'est-à-dire que la tragédie, elle est toujours là quand on parle de ça.
Voilà. Il y a une réflexion sur la montagne plaisir et la montagne disciplinaire, celle de la performance. Et il y en a un qui a fait le lien, finalement, entre les deux, c'est effectivement Patrick Edlinger. Qui, lui, va être pionnier de l'escalade libre dans les années 80 et qui va parler d'un esthétisme.
Pour moi, dans l'escalade, c'est pas uniquement passer, c'est la manière dont je passe, parce que s'agripper sur des prises étirées, c'est relativement facile, mais le faire en donnant une impression de légèreté et de façon esthétique, je pense que c'est d'autant plus joli.
En fait, c'est une expression corporelle au même titre que la danse, sauf que la chorégraphie, bon, est dictée par les prises, quoi, c'est un opéra vertical.
Alors on retrouve ça, hein, Jean-Christophe Ruffin, dans votre livre, avec les deux frères. Il y a ces deux frères, Rémi et Julien, dont l'un est passionné par la montagne telle qu'elle est, artistique presque, et puis l'autre par la performance. Vous êtes d'accord avec ça? C'est artistique, la montagne? Quand on grimpe, on peut être dans une forme d'art, vous qui grimpez?
Ah oui, mais d'ailleurs, c'est l'évolution vraiment de la montagne aujourd'hui. C'est-à-dire que, si vous voulez, vous prenez les années 30, c'était les sommets, il fallait conquérir un sommet. C'était d'ailleurs très national, voire nationaliste. Hein. On voyait la guerre pour les 8000 en Himalaya, c'était vraiment une guerre nationale. Les Italiens, le K2, la France, l'Annapurna, etc. Et aujourd'hui, finalement, on insiste moins sur le sommet, sur cette idée de conquête, qui a pratiquement disparu, parce que qu'est-ce que vous voulez conquérir aujourd'hui, mais plus sur la voie, c'est-à-dire sur le chemin et même sur le geste. Et il y a de grands grimpeurs, de grands alpinistes auxquels je suis loin de me comparer en termes sportifs, comme par exemple Stéphanie Bonnet qui a écrit un très beau livre à la verticale de soi, qui parle de yoga vertical.
Oui, c'est ça,
c'est-à-dire
ça.
C'est le geste qui compte. Et puis il y a une chose aussi dans le rocher, ça c'est difficile à faire partager, mais j'espère un peu l'avoir fait comprendre dans le roman, c'est que c'est le toucher du le calcaire, c'est pas comme du granit, c'est pas comme du gneiss, il y a un toucher différent, on goûte ça, je veux dire presque comme un plat, quoi, voilà. Et il y a une jouissance du fait de mettre les mains sur quelque chose.
Il y a le rapport au corps, hein, que vous évoquez, Jean-Christophe, effectivement, le rapport à la nature, le corps totalement en symbiose avec cette nature-là. On va en parler de ce rapport au corps. Après, les libraires et le Canada et la Belgique qui ont lu votre ouvrage. On commence par qui, le Canada, la Belgique?
Comme vous voulez, je pas Barbara Damblon, Notre-Dame.
Si Déborah Damblon, allez, en Belgique. Donc, il vous connaît, Déborah, attention. Allez-y.
Oui, mais moi, je le connais aussi, monsieur Ruffin. Et vous êtes, incroyable, incroyable. Vous êtes toujours là avec une nouveauté. Et puis, comme toujours, tout est fin, c'est évoqué sans insistance, avec l'exactitude du vocabulaire, avec la précision des nuances, avec la justesse des sentiments. Et puis, comme chaque fois, on a la surprise de découvrir où vous nous emmener. Alors bon, comme tous les voyages, il y en a qui nous plaisent un peu plus, il y en a qui nous plaisent un peu moins, mais c'est le revers de la médaille de l'immense variété de vos sujets. Donc moi, je paye bien volontiers. Et puis comme d'habitude, là j'ai fini, alors j'attends le suivant.
Dans 3 mois, hein, Jean-Christophe.
Ah, oui.
Le Canada, Mike Vienno.
Oui, j'ai vraiment aimé cette lecture. Je dirais que l'auteur s'appuie sur la forme dans le fond pour mettre dans le fond toutes les variantes de la forme. La lecture est vraiment agréable, l'ascension est facile et je dirais même que rendu au sommet de cette histoire, on se laisse glisser doucement, comme sur une neige gelée, jusqu'au bas de la montagne. C'est rafraîchissant comme une journée d'hiver au vent frais et c'est tonique comme une escapade sur les versants glacés d'une montagne.
Merci, merci beaucoup.
Alors, on parlait de ces deux frères avec Rémi et Julien. Il y a Rémi qui va rencontrer cette jeune femme, Laure, et il va y avoir des allers-retours entre la montagne et la ville, Jean-Christophe Ruffin, parce que c'est ça aussi le sujet du livre. Quand Rémi va décider de quitter la montagne pour rejoindre Laure, il va changer physiquement, psychologiquement. La montagne entretient le corps et l'esprit, quelque part.
Oui, mais ça, c'est vraiment la base qui est une histoire vraie. C'est-à-dire que, bon, ils se rencontrent, Guy, et puis cette jeune femme. Bon, tout va bien, c'est sympa. Elle vient le voir, ils font des belles ascensions ou des belles randonnées à ski. Ouais. Puis un jour, il en a marre d'être là et d'attendre, alors il va à Paris la rejoindre. Seulement, quand le guide bronzé, vous voyez, arrive à Paris, et surtout quand il y reste un petit peu, il est déjà moins bronzé. Et puis, là, ça se passe pas forcément très bien, parce que la fille qu'il trouvait merveilleuse, avec ses lunettes de soleil et ses skis, quand elle l'a à domicile, ça se passe pas pareil. Et ça, c'est la base du récit, c'est de là que je suis parti, c'est une histoire vraie. Et justement, il y a le début de ce mouvement d'aller-retour, puisque lui, il va vers elle, et puis ensuite, il repart en comprenant mieux la montagne, pourquoi il y va. Et elle va, au fil du roman, être amenée à y retourner aussi, et aussi à chaque fois de façon plus authentique, quoi, plus profonde.
Alors, elle a une définition sur la montagne, elle aussi. On va laisser Tonino Benacquista lire cet extrait. Bonjour Tonino.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ben, ça va très bien.
Vous adorez Jean-Christophe Ruffin ?
J'adore.
Ou pas du tout ?
J'aime bien le Ruffin qui marche.
Ah oui.
Ah oui, moi j'ai adoré Immortelle randonnée, c'était vraiment une merveille de lecture. Donc là le Ruffin qui grimpe, plaire. Alors là je connais
c'est
pas,
possible.
Mais je vais voir là.
Ça peut vous plaire.
Mais voilà.
Alors on va lire cet extrait ensemble avec Laure qui raconte comment elle perçoit elle la montagne. Tonino Benacquista.
La montagne pour nous, c'est la liberté absolue. C'est le dépassement de toutes les limites. La paroi est verticale, on est lourd, il n'y a pas de prise et pourtant on monte. Il fait froid, il neige, la tempête fait rage. Aucun être humain ne devrait survivre dans ces conditions, mais pourtant on est là et on avance. On transgresse les limites que la nature nous a imposées. C'est ça, la liberté. L'exaltation de l'individu et le refus de tout ce qui l'opprime.
Ouais, c'est ça la montagne pour vous, Jean-Christophe.
Oui, c'est ça. Alors ça, c'est extrait d'un dialogue où elle est interpellée avec des amis parisiens qui disent mais la montagne. Moi, j'ai entendu ça parfois. La montagne, c'est facho, quoi. La montagne, c'est parce que c'est vrai que le nazisme a beaucoup utilisé ces clichés de la pureté de la montagne et tout ça. Et elle explique que c'est le contraire, c'est-à-dire que non seulement c'est pas facho, c'est pas quelque chose, mais que c'est au contraire l'endroit et c'est peut-être un des derniers endroits hein, de liberté. Et moi, je suis d'ailleurs très, pas pessimiste, mais en tout cas inquiet hein, sur cette réduction de la liberté, parce que pour le moment c'est encore possible. Mais moi j'ai un souvenir comme ça en Afrique du Sud il y a quelques années, j'étais sur un sentier, je marchais sur un sentier, j'étais loin déjà, et puis j'ai rencontré un ranger qui m'a demandé si j'avais mon ticket, parce que là-bas il faut prendre un ticket pour faire de la randonnée, parce qu'on vous, soi-disant, vous protège, etc. On n'en est pas tout à fait là, mais qui sait.
Bon, il y a des choses aussi que vous dites avec un petit Parisien bourgeois. Elle va rencontrer un autre homme, Laure, à un moment, on va pas tout raconter, mais il y a cet homme qui vit la montagne, lui, comme un loisir, comme un moyen d'accéder à un monde que le commun des mortels ne pouvait pas polluer. C'est ça la montagne, Jean-Christophe Ruffin, un lieu a priori hostile qui interdit la négligence ou la dégradation ?
Oui, enfin, en ce qui concerne ce personnage, c'est plutôt quelqu'un qui se sent supérieur.
Ouais,
parce
oui,
qu'il
ça
fait
c'est
sûr.
Sûr.
Oui. Voilà.
Oui, il est très
donc,
sûr de lui.
Voilà, et ça aussi, c'est un danger. C'est-à-dire qu'en effet, on peut se dire, bah oui, il y a tous les clampins là, qui sont dans la vallée, et moi, je suis dans... Donc, voilà, c'est un risque. Et ce n'est pas du tout la conception qu'elle a, elle, ni Rémi, bien sûr. Ouais. Mais ça existe, et c'est pour ça que je voulais qu'un personnage l'exprime, parce que c'est aussi un risque, ça.
Mais c'est intéressant ce qu'il dit, que c'est un endroit qu'on ne peut pas polluer.
Oui.
Oui et non, quoi.
Oui et non, parce que lui, il le pollue un peu, rien que par sa présence.
Oui, mais ce qu'il veut dire par là, et ce qu'on peut entendre par là, Jean-Christophe, c'est que c'est plus difficile peut-être de polluer la montagne que de polluer la mer.
Oui, alors ça, non.
C'est faux.
On peut l'imaginer, ouais. Mais il suffit d'aller voir le sommet de l'Everest ou même du Mont Blanc, tout simplement. Ouais. C'est des endroits qui sont de plus en plus soumis à justement, et c'est bien ça qui peut compromettre un jour la liberté de faire ce sport, c'est que en effet, c'est vrai, objectivement, ça détruit un peu l'environnement si on n'y prend pas garde.
Bon, on va terminer avec un deuxième livre qui sort en même temps, qui s'appelle « Montagnes humaines » aux éditions Artaud. C'est un livre d'entretien. Vous racontez des choses et vous dites par exemple, un passage qui est assez étonnant, « L'escalade est un sport où le poids a une grande importance. Chaque kilo compte quand il faut le hisser sur une paroi. Bien sûr, on boit quand même, et beaucoup. » dans les milieux de la montagne. Vie sportive ne veut pas forcément dire vie monacale. Le vœu de chasteté n'est pas non plus obligatoire.
Oui, non, ça c'est sûr. Non, mais c'est vrai que cette histoire du poids, si vous voulez, ça a l'air idiot, mais c'est fondamental, quoi. C'est fondamental.
Oui. Mais quand on boit, on prend du poids.
Mais bah, ça dépend ce que vous avez fait dans la journée. Si vous avez fait des courses bien dures, et ben
on peut
là,
boire.
Vous l'avez mérité. Alors je dis pas
vous
qu'on
êtes médecin,
fait du
je
sport
rappelle.
Pour boire, mais en tout cas on boit parce qu'on a fait du sport. Voilà.
Avec modération. Quand même.
Oui, oui. Ah, ben bien sûr. Enfin, pas le sport, mais le vin, ça voulait dire.
Oui. C'est ça. Voilà. Bon, merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin, vous allez rester avec nous, vous êtes notre premier de cordée aujourd'hui.
Merci.
Avec ce nouveau roman Les Flammes de Pierre qui est paru chez Gallimard. À suivre l'étonnant roman suisse de Rebecca Gisler autour d'un personnage repoussant. Avant cela, voici le groupe créole Bonbon Vaudou dans la librairie francophone.
Sous mes écailles de chasteté se cache une peau satinée, c'est à la pince à épiler que je tente de les arracher. Tous les hommes que j'ai attrapés dans mes filets m'ont pas aidé, de ma rigueur se sont targués, puis le lendemain ils me larguaient. Qui pourra palper ma peau dans son carcan côte d'écaille? Ma chasteté chasse tous ceux qui tentent de tâter ma taille. Qui pourra palper ma peau dans son carcan côte d'écaille? Ma chasteté chasse tous ceux qui tentent de tâter ma taille. Pour les enlever, j'ai testé un spécialiste des soins de beauté, épaulé d'un psy chevronné, aucune écaille n'a lâché. Mes écailles de chasteté m'aiment bien trop pour me quitter. Le psy me dit c'est sublimé, l'esthéticienne dit incarné. Qui pourra palper ma peau son carcan côte d'écaille? Ma chasteté chasse tous ceux qui tentent de tâter ma taille. Qui pourra palper ma peau dans son carcan côte d'écaille? Ma chasteté chasse tous ceux qui tentent de tâter ma taille.
Érotique, hein, très sensuel, c'est pour Jean-Christophe Ruffin. Bonbon vaudou avec les écailles de chasteté.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
Les coups de gueule et les coups de cœur des libraires. Tout de suite, un coup de gueule en Belgique, Déborah Damblon.
Ben oui, Emmanuel, je vous propose qu'on arrête de dire et de laisser dire que les livres sont chers, ok? D'accord, oui, ça peut représenter une certaine somme d'acheter un livre, surtout en grand format, mais quand même, ils ne se lisent pas en quelques minutes. Alors si on fait le rapport entre le prix et le nombre d'heures de plaisir qu'il apporte, ben c'est pas si cher. Et si dans le ratio, on ajoute les heures qu'on a passées à y penser, à s'en souvenir, ben je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qui égale la lecture. Alors finalement, on est d'accord avec moi ? On arrête cette mauvaise habitude, hein, Emmanuel? Allez.
Bah, les livres sont un peu chers quand même pour tout le public. C'est parfois compliqué. Je regarde Jean-Christophe Ruffin, 21 € quand même.
Voilà, mais c'est vrai que il va passer en poche.
Il le mérite. Oui, non, mais faut l'acheter avant qu'il passe en poche. Mais il le mérite. Mais c'est un petit peu cher. Ça reste un petit peu cher les livres quand même. Et les éditeurs.
Mais non. Combien d'heures on va passer à lire Ruffin?
Oui, c'est vrai.
Ça fait combien à la minute?
C'est vrai.
C'est pas cher,
Emmanuel. Jean-Christophe, c'est pas cher.
Beaucoup moins cher que le resto.
J'ai tout à fait d'accord.
D'accord.
Merci, Jean-Christophe.
Un vieux débat. Un coup de cœur en Suisse, Dominique Bressoux, qui vend des livres pas chers.
Alors, surtout en Suisse.
En
oui.
ce moment, 50% en moins dans la librairie de Dominique.
C'est ça, c'est ça.
Allez-y ce week-end.
Ne fais pas de blague.
Alors, allez, le coup de cœur.
Moi, c'est un coup de cœur jeunesse, hein, donc pour les enfants dès 5 ans. C'est Le singe et l'épouvantail de Pierre Sange, illustré par Albertine. Alors, c'est le genre de livre, ça donnerait envie direct d'être une gentille grand-mère au coin du feu qui raconte une belle histoire à ses petits-enfants. C'est un petit singe sapajou, un peu démuni, qui rencontre un épouvantail doté de paroles et d'une ruse sans égale, fin connaisseur des leçons à tirer des fables de La Fontaine. C'est un conte passionnant, cerise sur le gâteau, si vraiment on n'a pas l'âge d'être une grand-mère, il y a un CD joint où l'histoire est accompagnée de musique baroque.
Bien.
C'est une merveille.
Illustré par la magnifique Albertine, aux éditions La Joie de lire donc Le singe et l'épouvantail. Vous aimez le heavy metal, je suis sûr, Dominique.
Comment dire ?
Comment dire ? Oui, voici Iron Maiden. Oui. Maiden avec un tube de l'été 1984 qui correspond parfaitement au livre de Rebecca Gisler puisqu'elle cite Iron Maiden dans son livre. Bonjour Rebecca.
Bonjour.
Vous êtes une auteure suisse, vous publiez votre premier roman chez Verdier. Tout est bizarre dans ce livre, même le titre d'oncle, d'oncle comme un oncle. C'est lui qui écoute d'ailleurs du heavy metal.
Exactement, oui.
Pourquoi c'est bizarre comme ça ? Pourquoi d'oncle déjà ?
Bah, d'oncle, peut-être parce que ce titre reflète un peu le personnage boiteux, on peut dire entre guillemets peut-être anormal de l'oncle, et puis aussi un rapport à la langue que moi j'ai, donc un rapport à la langue française qui pour moi est plutôt un peu, voilà, une sorte de recherche étrange, incorrecte parfois. C'est pour ça qu'il me plaît beaucoup.
Vous jouez avec la langue.
Exactement.
Très bien. Vous racontez de façon un peu décousue, par fragments, avec des moments très étranges, la vie d'un homme, oncle d'un duo frère et sœur. Ces deux-là vont vivre avec lui. Il y a un peu de Boris Vian, parfois, un peu de Anne-Sylvie Sprenger. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur suisse, qui écrit des romans sans tabou, très crus. Pourquoi est-il bizarre, cet oncle ?
En fait, il est peut-être, je sais même pas s'il est vraiment bizarre si on le rencontre comme ça, mais
ouais,
c'est plus l'observation de cet oncle. Du coup, en fait, vraiment observer un personnage de matin au soir dans tous les petits détails, bah tout le monde devient bizarre, je pense.
Ouais.
Et après, peut-être c'est un personnage qui tient, qui a un peu créé, développé sa propre idéologie. Il est resté un peu dans son enfance. Voilà, il écoute du heavy metal, mais le heavy metal, c'est pas que la musique. Non, c'est tout un, c'est un style vestimentaire, c'est les souvenirs d'enfance et tout. Et donc, c'est peut-être ça qui le fait bizarre parce qu'il tient, en fait, il ose encore. Être enfant.
Ouais, c'est ça. Il est incontinent aussi, alors c'est pas simple hein, quand il est à table. Il poivre ses plats de façon outrancière, il met du poivre partout, mais en grande quantité, alors qu'il ne supporte pas vraiment le poivre. Il postillonne à table, il est intenable, au point qu'inviter quelqu'un à la maison pour le dîner est une épreuve. Et vous écrivez « Dîner en face de l'oncle, c'est accepter de partager sa nourriture ».
Ouais, exactement. Parce
ça,
qu'il est très bavard.
Envie, hein. Ouais.
Parce qu'il est très bavard et qu'il aime beaucoup avoir de la compagnie. Après, c'est l'incontinence, ça vient aussi après un séjour à l'hôpital qu'il a eu et tout. Et qu'en fait, juste ses neveux qui passent beaucoup de temps avec lui voient ça de près et du coup s'en prennent plein la figure, disons comme ça, vraiment.
Bon, un jour, sa nièce et son neveu donc vont aller voir dans sa chambre ce qu'il s'y passe. Et là, en son absence, en fait, il découvre un taudis. Et ça, ça existe vraiment. Alors, on a du mal à s'imaginer, mais il y a parfois des hommes ou des femmes, souvent des hommes d'ailleurs, qui basculent dans la négligence la plus totale, au point d'être dépassés par la situation. À un moment, ils ne peuvent même plus nettoyer ni ranger leur logement.
Bah là, justement, dans le livre, c'est surtout parce que les neveux, donc, ils passaient beaucoup de temps quand ils étaient enfants, en été, avec leur oncle, et ils n'ont jamais pensé ou réfléchi à aller voir dans cette chambre. Et petit à petit, en fait, l'oncle, il commençait à fermer sa chambre à clé, donc il cachait sa clé. Et un jour, quand l'oncle est à l'hôpital, il décide d'aller voir dans cette chambre. Et en fait, je pense que avec le personnage de l'oncle, c'est même pas vraiment pas avoir envie de ranger ou de faire le ménage. C'est pas important pour ce personnage. En fait, il aime bien avoir toutes ses affaires autour de lui, dont les cabas du supermarché, les boîtes de biscuits, et voilà. En fait,
et c'est son urine aussi.
Et son urine aussi. Voilà, c'est une
dans
sorte
des
de
bouteilles.
C'est une sorte de laisser aller, mais sans s'en rendre compte de que c'est un manque d'hygiène ou voilà.
Bon, Rebecca Gisler, les deux neveux et nièces sont là pour l'oncle en tout cas. Ils s'adaptent. Et ils acceptent au final cette différence.
Peut-être pas les deux.
Mais elle réside dans le frère un peu moins.
Le frère un peu moins.
Le
peut-être.
Frère se révolte à un moment.
Exactement. Ouais. Et en fait, là.
Il lui dit, mais tu n'es pas un chien quand même. Voilà. Réagis.
Ouais. Voilà, exactement. Le frère qui est très nerveux et très tendu par rapport à cette situation, mais aussi à cette, par rapport à cette cohabitation un peu forcée. Enfin, on ne sait pas trop. Et la narratrice, bah, en fait, ce qu'elle, elle fait, elle accepte et elle se met à observer. Et donc, elle rentre, elle va petit à petit, elle suit les pas de cet oncle sans jugement. Juste par une observation, et donc elle commence en fait à gonfler comme ce personnage de l'oncle, à faire les mêmes mouvements, les mêmes gestes.
Ouais. Il a une passion pour son neveu quand même, hein, cet homme-là. Vous le racontez, ça c'est le neveu adoré. Il se projette en lui, il le voit comme un prolongement de lui-même.
Je pense aussi parce que c'est quelqu'un avec qui il jouait beaucoup avant. Donc en fait, c'est comme ces souvenirs de jeux, de boomerang, de ping-pong, de marche dans la baie, sur le sentier, tout ce qu'il faisait avec son neveu, avec ce garçon en fait, qui était un enfant, et maintenant il est adulte, en fait ce changement, il ne l'a pas vu. Comme il dit aussi, il lui offre des t-shirts beaucoup trop grands, parce qu'il dit, bah, en fait, il va encore grandir dedans, mais le neveu, il est adulte.
C'est
donc, en fait, c'est plus une sorte de fascination, parce que c'est comme son meilleur ami, en fait. Ouais. Il n'a pas beaucoup d'amis, c'est ça aussi qu'il faut.
Bon, on va voir du côté de nos libraires qui ont lu votre livre. Mmh. Qu'en pensez-vous ?
Bah oui, avec plaisir.
Ça vous va ? Allez, la Suisse, par exemple ?
Avec la Suisse,
parfait. Avec Dominique Bressou, elle est sympa, Dominique.
Okay.
Dominique.
Alors moi, j'ai été interloquée dès les premières pages, amusée ensuite et enrubannée ensuite dans les phrases à rallonge. Je suis encore sous le choc de cette lecture au style et au sujet, bref, à tout ce qui fait un roman extrêmement originaux. Mais j'ai trouvé qu'un changement de rythme aurait cependant rendu la lecture plus facile, ce qui fait que je ressors de ce livre en me demandant si j'ai aimé ou pas, s'il y a un message subliminaire ou pas, mais au moins, il m'a fait passer un excellent moment.
Oui, c'est étonnant, ça, ce que vous dites, hein, au final. Vous avez aimé ou pas ?
Eh ben, écoutez, je vous dis, j'arrive pas à le dire.
Ouais, c'est ça. Bon, allez, Thomas Auxerre, qu'en pensez-vous ?
Oui, bah alors, moi, même si je suis resté un petit peu sur ma faim à la dernière page de votre roman, je dois dire que vous savez jouer avec les mots, que vous avez une sorte d'humour à froid dans les descriptions, moi, que j'ai adoré. Votre texte a un côté conte cruel qui m'a aussi beaucoup plu. J'ai aimé vos personnages bien barrés. Bon, le tonton, bien sûr, hein, mais aussi le neveu et la nièce, qui sont dans une passivité ou une observation quand même totale. Pour finir, je dirais que c'est vraiment déglingo. Et que ça plaira peut-être tout autant à ceux qui aiment les textes courts et bien écrits qu'à ceux qui aiment le décalage absurde, hein, quand même.
Oui, c'est déglingo, hein, Rebecca Guistel.
Oui, c'est un peu déglingo.
Oui, vous êtes déglingo vous-même.
Ben, je sais pas, hein, peut-être. Mais en tout cas, c'était un plaisir, c'est ça, peut-être aussi le rythme ou ce qui a fait le rythme du texte. J'aimerais dire que même en l'écrivant, en fait, c'était un énorme plaisir et c'était drôle et c'était tragique à la fois. Et c'est l'observation qui fait gonfler et qui crée l'écriture, en fait, l'écriture qui crée le personnage qui crée la nièce. Et en fait, c'est pour ça, même la chronologie, c'est tout qui vient en écrivant comme ça. Et c'est comme une sorte de méditation, déglingos, peut-être par moment, je ne sais pas.
Méditation, déglingos, ça pas mal, hein, Jean-Christophe ? Oui. Vous avez médité de façon déglingo, vous ?
Sans doute, sûrement, ouais. Mais je ne m'en rends même pas compte.
Puis j'aime bien repérer le petit détail que personne ne verra jamais.
Voici une nouvelle séquence que vous retrouverez régulièrement à la radio et dans la version télé de l'émission. Le principe, piocher dans un livre de l'un de nos invités une curiosité, sans rapport direct avec l'histoire, mais qui mérite de s'y attarder. Un moment du livre, a priori anecdotique. Rebecca Guistel, on en a relevé dans votre livre des curiosités. Vous évoquez à un moment le rayon des bonnes affaires dans les supermarchés, que l'oncle adore, hein, cela dit. Des objets pas chers mais insignifiants qui excitent les clients. Il y a des magasins entiers spécialisés dans cette camelote désormais. Qu'est-ce qui nous attire vers ces objets, selon vous ?
Parce qu'on ne sait pas à quoi ils servent, en fait, je pense. Et ils ne sont pas chers, donc on veut tous les acheter. Ils sont beaux, ils ont l'air intéressants, mais ils sont insaisissables. Donc je pense que c'est ça qui nous attire. Et vraiment, souvent, ils sont aussi placés juste avant la sortie ou juste avant les caisses. Donc on se dit, ah, j'ai peut-être besoin de ce...
Il y a une éponge qui rigole, par exemple,
voilà,
de citer ça.
Voilà, une petite éponge qui rigole. Ou de...
Une tasse avec des chats dessus.
Ouais, qui se lèche, je crois,
oui,
très jolie aussi.
La guillotine à saucisson.
Guillotine à saucisson, très important aussi d'avoir une guillotine à saucisson en plastique, forcément, qui coupe peut-être pas trop.
Oui, qui coupe rien du tout, oui.
Voilà, et moi je crois que j'ai une sorte de fascination de toute manière pour des objets du quotidien, en fait, du quotidien, on connaît tout, mais qui sont un peu insaisissables. comme le personnage de l'oncle qui est un peu insaisissable et qui adore ces objets-là et qui en achète en masse et qui en offre à tout le monde.
En plusieurs exemplaires.
En plus, parce que c'est pas cher.
Bon, on sort de cette séquence, même si dans votre livre, Rebecca, il y a beaucoup de curiosité, comme votre regard sur la Suisse. Vous laissez entendre que la Suisse et les Suisses se définissent comme étant mieux que tout le monde. Il y a les meilleurs dentistes, les meilleurs chirurgiens esthétiques, le meilleur chocolat, bien sûr, les meilleurs joueurs de tennis, discutable. C'est un pays premium. C'est un pays première classe, la Suisse, Rebecca Gisler.
Après, je ne sais pas, ce passage, c'est un passage quand même ironique. Et puis, en tant que Suisse, il faut dire que ce passage, il apparaît après la scène où les neveux, ils sont rentrés dans la chambre de l'oncle qui était très, très crasseuse.
Ne vous justifiez pas, vous écrivez
et puis,
tout ça.
Non, mais voilà, mais juste pour dire que, en fait, c'est aussi une sorte d'amour-haine que ces neveux, ils ont envers la Suisse, de le pays où ils sont nés. Et moi-même, je ressens ça parfois quand je suis en Suisse. Il y a une sorte de... C'est comme une sorte de belle, jolie, gentille bulle. Et parfois, c'est comme une sorte... Je me dis, c'est un peu un péché, en fait, de vivre en Suisse. Parce que... et puis, parce qu'en fait, on se dit, bah, tout est beau et tout est propre. Et puis, c'est pas faux, en fait. Vraiment, c'est pas faux. Donc, il y a un peu ce côté des neveux qui sont là avec leur oncle un peu crasseux et qui regardent ce documentaire sur la Suisse, un peu cliché, hein, quand même.
Et avec les montagnes valaisannes.
Avec les montagnes, voilà, avec les montagnes valaisannes.
Qui sont,
moi, j'ai beaucoup de vertige. Donc,
c'est décrit comme le Népal européen.
Ouais.
Et l'équipement de montagne est au top en Suisse.
Exactement.
C'est le meilleur équipement du monde.
Exactement.
C'est vrai, Jean-Christophe Ruffin?
Ah oui, mais les montagnes suisses sont merveilleuses. Les refuges suisses sont extraordinaires parce que vous arrivez n'importe quel moment, l'hiver par exemple, ils ne sont pas gardés. Et vous allez juste avoir à craquer une allumette, tout est prêt pour faire le feu, etc.
Ouais, et l'équipement?
Alors qu'en France, vous laissez ça et tout le monde dévaste le truc. bon, mais et l'équipement aussi, bien sûr. Non, ce sont des montagnes merveilleuses, le Cervin. Enfin, les Valaisans sont très très fiers de leur montagne, évidemment.
Ouais. Bon, faudra emmener Rebecca Gisler en montagne.
Avec plaisir.
Non, par pitié.
Mais pourquoi par pitié?
Mais non, mais j'y suis déjà allée. Mais
c'est joli, on vous a dit.
C'est très joli, mais pas plus de 2 jours, je pense, pour moi.
Une petite semaine dans un refuge.
Ouais, on peut déjà faire pas mal de choses en 2 jours.
Ouais, c'est ça.
Et que vous grimpez comme ça à 3000 mètres d'altitude, à main nue.
Ouais.
Bon. Bon, merci Rebecca Gisler. Je rappelle
merci
que votre livre D'Oncle est paru chez Verdier, superbe éditeur. On le disait avec Antoine Waters qui a publié aussi un livre chez eux en cette rentrée littéraire. Merci Rebecca, à très bientôt.
Merci.
À suivre une BD sur l'influence de Dieu ou presque avec Tonino Benacquista et Nicolas Barral. Avant cela, on écoute le nouveau titre de Bernard Lavillier.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort. Celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner. Enchaîné, enchaîné. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs reviendra, le compte à rebours sur ses désirs brûlés. Sur ses désirs brûlés.
Tout nouveau titre de Bernard Lavilliers avec le cœur du monde dans la librairie francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Rebonjour Tonino Benacquista.
Bonjour.
Bonjour Nicolas Barral.
Bonjour.
Comment allez-vous Nicolas ?
Très bien.
Vous avez été sage toute l'émission.
Mais j'écoute.
Oui, c'est bien.
Ça vous plaît ? Je m'instruis.
Ça vous a plu ou pas ?
Ah, mais tout à fait.
Oui.
Puis j'ai un peu de trac aussi.
Pas de trac avec nous. Vous êtes chez vous. Dieu a un pouvoir, figurez-vous. C'est la bonne nouvelle. Il nous envoie parfois des anges gardiens pour sauver notre âme et nous changer radicalement. Nos défauts ou notre ambition la plus extrême peuvent être ajustés, c'est ça un peu, Nicolas ?
Oui. Dieu, dans son infinie bonté, nous observe et tâche de nous associer quand on a un souci, un talent exceptionnel.
Ouais.
Et les talents exceptionnels, c'est pas ce qui manque au paradis.
Oui, il a toute une liste.
Oui,
donc
oui.
Il peut piocher dans cette liste pour
oui.
envoyer ce talent ou cette
oui,
personnalité.
Mais pas n'importe comment.
Aider un autre personnage.
Voilà.
Anonyme.
Oui, un anonyme. Un homme, une femme.
C'est ça.
Un enfant.
Oui.
Qui souffre, qui parfois se noie dans un verre d'eau.
Ouais.
Comme ça nous arrive à tous, je crois. Puis voilà, et donc il pioche et le talent. Alors là, dans cet album, on en redéfilait quelques-uns. Il y a Maria Callas, par exemple, ouais. Il y a Michel Audiard. Et donc, en échange, évidemment, cette personne reçoit un cadeau.
Oui, c'est ça. Une volonté, comme une dernière volonté. Que pourrait faire Dieu pour vous, Tonino Benacquista ?
Oh, il pourrait m'envoyer Shakespeare.
Ah oui, pourquoi ?
Ben, je sais pas.
Qu'est-ce qu'il ferait pour vous, Shakespeare ?
Ben, quand j'ai une petite panne d'inspiration, je me dis, tiens, avoir un coach, alors pourquoi pas Shakespeare, quoi.
Vous n'avez jamais de panne d'inspiration.
Ah, c'est vrai, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai.
Mais en même temps, rencontrer Shakespeare, ça pourrait être une expérience agréable quand même.
Oui, c'est vrai. Bon, dans cette série, en 3 tomes, hein, dont le dernier vient de sortir, Dieu n'a pas de réponse à tout, mais il sait déléguer. Dieu repère comme ça donc des hommes en péril. Il choisit dans son répertoire au paradis, on l'a dit, des personnalités qui ont marqué leur époque. Par exemple, Gandhi, qui va initier la 4e fortune mondiale à la sagesse. Il est persuadé, lui, que tout le monde a un prix quand il arrive sur l'île où il y a Gandhi. Hein, vous avez imaginé que Gandhi est sur une île, que l'avion de cet homme très riche crache sur l'île, et là on a Gandhi. Qu'est-ce qu'il fait Gandhi, Tonino ?
Rien.
Ouais.
C'est toute sa force. Non, mais en plus c'est vrai, il ne fait rien.
Rien.
Et c'est une force d'inertie extraordinaire. C'est la figure même de la résistance passive, et c'est quelque chose, on ne peut pas résister à la résistance passive, si je puis dire.
Ouais.
C'est pas possible. Ouais. Et donc on a beau être une des plus grandes fortunes au monde, on ne peut rien faire devant l'impassibilité et le rayonnement de Gandhi. C'est pas possible.
Alors, il va apprendre quand même, petit à petit, que moins on possède, moins on désire. Vous pouvez développer cette idée, Nicolas Barral ?
J'ai combien de temps ?
Vous avez 4 heures.
Moins on possède, moins on désire. Il faudrait tous qu'on s'y mette, effectivement.
Oui, je crois. Oui.
Il me semble que ça urge. Moi, il ne me faut pas grand-chose, en fait. Un bon scénario, ma petite tablette graphique. Et puis...
Mais toutes les phrases, enfin, je fais juste un aparté, mais toutes les phrases prononcées par lui sont des vraies citations de Gandhi. Enfin,
et chez Audiard aussi, parce que Audiard,
c'est que du Audiard. Callas, c'est pratiquement à 98% des phrases qu'a prononcées Callas. Donc voilà, c'est...
Donc Audiard va lui aider un homme qui trouve tout le monde con. Ça existe, ça aussi. On a dans la vie, autour de nous, des gens qui se croient au-dessus de tout le monde.
Ouais, mais c'est même une majorité, je pense.
Vous croyez-vous ?
Bon, on a tous, à un moment donné, envie de dire « Oh ouais, les cons, j'en ai marre. »
Vous le dites, vous, ça, Tonino ?
Non.
Si.
Ben non.
J'ai
la preuve. Non, mais il y a ce truc de dire, les cons, etc. Ça veut dire qu'on se met immédiatement dans... On s'en exclut immédiatement, on est dans le bon camp d'un seul coup.
Ouais.
Et là, Audiard va lui expliquer que c'est plus compliqué.
Ouais. Il y a un très beau dessin d'ailleurs, hein, Nicolas Barral, page 28, à la fin de cette histoire, en conclusion.
Oui.
Parce que Audiard va demander quelque chose d'être avec ses copains de l'époque.
Oui, c'est ça. Et en fait, c'est toujours un cadeau, d'ailleurs, d'avoir dessiné toutes ces figures emblématiques. En l'occurrence de mon enfance aussi, puisque je les voyais à la télé. Donc, il y a effectivement Audiard, il y a Gabin, il y a Ventura, il y a Blier.
Mmh.
Voilà. On se les approprie.
Alors, c'est en noir et blanc, comme ça.
Oui, c'est fait au crayon.
Au crayon, c'est très beau. Hein,
c'est d'ailleurs l'exception dans l'album, parce que le reste maintenant, c'est tout informatique. Ouais. Mais il y a cette petite ponctuation.
Merci de nous gâcher le plaisir.
Mais non, mais...
Comment ça, c'est tout informatique?
Mais j'ai craqué.
Ah, vous avez fait à la tablette graphique?
Oui, oui, mais ça se voit pas quand même.
Ah bah non, ça se voit pas, mais alors voilà. Je suis déçu. Hein.
Donc j'aurais pas dû le dire.
Non, c'est pas vrai. Je l'apprends.
Mais il y a ce plaisir un peu sensuel du papier que je retrouve effectivement à la fin de chaque histoire.
Bah oui,
voilà.
Bon, allez, on passe à Maria Callas avant de donner la parole au libraire. Elle va aider une petite fille qui est soumise à l'autorité de son père qui veut en faire une artiste virtuose. Et elle va pointer du doigt un phénomène très contemporain, celui des enfants mis en scène, par des télécrochets notamment. Et Tonino, dans le scénario, très bien servi par les dessins de Nicolas, donc, vous osez une critique sur les membres du jury des télécrochets.
Alors
on pense à La Voix au Québec ou The Voice en France et en Belgique, où effectivement on repère tout de suite qu'il y a une chanteuse ou deux ou trois qui ne savent pas chanter, disons les choses, qui n'ont rien à faire là pour juger les autres, quoi.
Peut-être, mais j'en ai jamais vu, hein, franchement.
Si, moi j'ai des noms. Hein.
Bon. D'accord. Vous êtes d'accord avec cette case un peu critique, alors.
Je vous aide un peu, Tonino. Ouais, c'est ça, c'est une critique, ça vous énerve les télécrochets.
Bah.
Allez-y.
Non, mais bon, avoir 3-4 individus qui disent « Ah ouais, alors toi ceci, toi ça, alors mais toi, non, bip !» Bon, c'est un cauchemar, oui. Ça, mais après, voilà. Après...
Surtout quand on a fait des disques médiocres.
Ça, je ne sais pas.
Ceci dit, pour avoir grâce aux yeux de Maria Callas, ça
doit se lever de bonheur. Oui, c'est ça, il y a une
merci de sauver Tonino Benacquista, Nicolas Barral. Il a très peur qu'on lui demande de citer des noms.
Non, mais c'est pas ça, mais ben, je ne les ai même pas. Alors là, franchement...
Non, mais là, ils sont pas cités. Ils
ont été créés toutes pièces.
Mais on les voit tout de suite, quoi.
Mais c'est vrai que mettre Callas là, voilà, à côté d'eux, etc., là, il y a une espèce de disproportion qui est assez réjouissante.
On pourrait appliquer cette remarque au prix littéraire, d'ailleurs, avec des auteurs médiocres qui se permettent de juger d'autres auteurs. Jean-Christophe Ruffin. Pourquoi vous avez été membre du jury?
Pourquoi vous me demandez ça à moi?
Vous pourriez être dans un jury comme ça, critiquer...
Je suis dans des jurys.
Ouais, mais des petits
prix. Ouais, enfin, le prix Interallié, du roman de l'Académie française, c'est pas l'Académie française.
Non. Mais c'est pas pareil, l'Académie française.
Mais vous savez, on en dit beaucoup de mal des prix, mais je pense que c'est une chance aussi pour beaucoup des auteurs qui sont primés. Moi, quand j'ai commencé, si vous voulez, j'ai envoyé mes livres par la poste. Puis quand j'ai eu le Goncourt, bah c'est vrai que c'est une fusée qui s'allume et qui vous porte très loin. Donc voilà. Mais forcément, juger les autres, de toute manière, c'est toujours difficile. On se sent toujours un peu illégitime et on est même accablé par la qualité de tout ce qu'on reçoit. C'est difficile de juger. Mais à un moment donné, il faut bien faire un choix quand même.
Bon, les libraires vont juger, eux, avec la Suisse et la Belgique. On commence par vous, Déborah Damblon, en Belgique.
Ah ben, avec plaisir, Emmanuel. Allez-y. Avec plaisir, parce que j'ai passé un vrai joli, doux, bon moment de lecture. Je me suis divertie, je me suis amusée, j'ai ri, bien sûr. J'ai réfléchi quand même, j'ai même un petit peu balayé devant ma porte. Et puis j'ai attendu la suite pour voir qui allait entrer en scène. Et puis je me suis réjouie qu'il y ait une femme, et puis quelle femme, hein, dans Les Sauveurs. Et bien sûr, j'ai pleuré à la fin, vous me connaissez.
Non.
J'ai même pleuré aux fins, je devrais dire. C'était juste bien, quoi.
Ouais.
Voilà.
Avec Victor Hugo, on va y venir dans un instant. La Suisse, Dominique Bressot.
Oui, alors moi, j'avais pas lu les précédents tomes, mais j'ai passé un très très bon moment avec celui-ci. Parce que la première histoire avec la quatrième fortune mondiale, pour moi, ça vaut à elle seule la peine de lire cette BD. Et même si on a vite compris le mécanisme, les manières de résoudre les problèmes de certains humains sont particulièrement bien adaptées. C'est un bon moment de lecture où les dessins en disent autant que le texte et c'est pas à bouder dans la morosité ambiante.
C'est
si
vrai.
Vous voulez mon avis.
Bon, voilà, vous avez séduit les libraires. Nicolas Barral, vous êtes content?
Bah oui.
Ouais. Il y a un forcené qui a perdu confiance en l'homme. Il n'y a qu'une seule personne pour l'aider. C'est Victor Hugo, Tonino Benacquista.
Un académicien.
Oui, en plus.
Hein ouais. Attention. Et alors?
Eh ben, c'est un génie. C'est un génie immortel, voilà, et qui revient sur Terre.
Comme tous les académiciens.
Et ça, non, ça nous faisait plaisir parce qu'il a déjà une bonne bouille. Ça, Nicolas lui a fait une tête, une bonne tête de patriarche, comme ça. Bon. Et puis voilà, c'est-à-dire que le romanesque, on dit Victor Hugo, et puis le romanesque se déroule immédiatement.
Alors, il y a un dessin un peu étrange que j'ai relevé, Nicolas Barral, parce que il y a ce Victor Hugo qui est désespéré de son premier cas à gérer. Et vous le dessinez dépité comme ça, avec en toile de fond, Notre-Dame qui brûle.
Oui.
Alors quel est le message là? Parce qu'on peut se poser plein de questions.
Non, mais le message, c'est que là, il affronte une situation qui est pour lui catastrophique et il dit, mais qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Et dans son dos, Notre-Dame brûle, voilà, tout simplement.
Donc, et
voilà.
Pour lui, c'est d'autant plus important.
Voilà, symboliquement, on ne pouvait pas ne pas faire cette situation, pas la dessiner.
C'est malin.
Oui, enfin, c'est pas facile à dessiner d'ailleurs, mais c'est malin.
Il y a ce magnifique dessin, hein, Nicolas, pour clore cette histoire une fois de plus au crayon, avec le vœu de Hugo qui est exaucé.
Oui.
C'est très très beau. Vous avez réussi à rendre l'émotion de façon incroyable. Ça m'a mis les larmes aux yeux.
Oui, je ne sais pas s'il faut qu'on dévoile. Mais
non, on ne va pas le dire.
Mais oui, mais c'est un moment. Oui, c'était très émouvant. C'est ma fille qui a mis. Tiens, je vais citer ma fille. C'est ma fille qui a fait les couleurs. Et ce dessin-là, elle n'a pas mis en couleur parce qu'il est en noir et blanc, mais elle a lu l'histoire parce qu'elle lit. Par principe, j'ai fait quand même un peu lire les histoires avant qu'elle se mette au travail. Et elle a pleuré en fait.
Voilà.
Alors j'étais à la fois fier et pas fier de moi.
Que pourrait désirer Victor Hugo comme souhait ultime? Si vous connaissez la vie de Hugo, vous avez compris, sinon vous allez lire ce livre. Merci beaucoup Tonino Benacquista et Nicolas Barral. Dieu n'a pas réponse à tout, mais est paru chez Dargo. Les trois tomes, le dernier vient de paraître. Dieu n'a pas réponse à tout, mais il s'est délégué. Et il y a eu aussi mais il est bien entouré, mais il sait à qui s'adresser. Dieu est formidable. Hein?
Ah bah oui.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
La suite de la chronique des libraires avec un coup de cœur au Canada, Mike Vienno.
Oui, mon coup de cœur, c'est une bande dessinée qui s'appelle « Ma vie en lo-fi ou en lo-fi » de Simon Labelle aux éditions Mécanique Générale. C'est une série de planches extrêmement agréable sur une réalité qui frappe le dessinateur. En fait, il est atteint d'une surdité soudaine. Alors, j'ai adoré le ton humoristique qui joue sur l'autodérision. Il y a un regard personnel et extrêmement éclairant qui explique la réalité du malentendant sans vraiment verser dans un pathos trop lourd. C'est vraiment un récit personnel juste et tendre qui met en valeur les talents de raconteur du bédéiste.
Simon Labelle, hein, le bédéiste, Ma vie en lo-fi chez Mécanique Générale. Merci Mike, un coup de gueule en France, Thomas Auxerre.
Oui, Emmanuel, un coup de gueule et même je dirais un gros coup de gueule envers les distributeurs de livres. Alors j'en ai déjà fait, notamment sur l'état lamentable des cartons et des livres à l'intérieur qui parfois nous arrivent.
Oui, c'est vrai.
Là, il s'agit plus d'axer sur le retard de certains distributeurs, c'est-à-dire ceux qui font logistique entre les éditeurs et les libraires. Alors en général, on est livré quand même assez vite, surtout à côté de Paris, voilà, bon. Alors là, franchement, on attend des records de longueur et de lenteur. On a eu jusqu'à 10 jours de retard, 15 jours de retard. Alors tous les lycéens, les collégiens qui attendent les bouquins à la rentrée, littéraire, enfin voilà. Bon, je sais que les éditeurs et distributeurs engagent là des intérimaires pour faire les 3-8 et heureusement qu'on a des clients super sympas et compréhensibles, mais là, quand même, c'est un peu long. Donc,
ça va trop loin.
Mmh. Ah ouais, c'est trop long.
Vous avez reçu le Jean-Christophe Ruffin qui sort cette semaine?
Les nouveautés, ça va. Ça c'est va, le bon. Réassort et donc, je l'ai. J'ai le Jean-Christophe.
Bon, il est soulagé. Il paraît qu'il n'y a plus de papier, surtout. Il y a des gros problèmes d'approvisionnement en papier.
Mais j'ai tous vos bouquins à tous, d'ailleurs. Mais plus trop de papier,
Bon, à suivre. Hein, vous suivrez l'histoire
à
du papier.
À suivre.
Très bien. Merci beaucoup, Thomas. Avant de conclure, on écoute le son de l'Outre-mer avec l'extrait d'une nouveauté originaire de la Guadeloupe. Voici l'artiste Edmoni Crater. C'était le son de la Guadeloupe avec un extrait de « C'est en nous » du Guadeloupéen Edmoni Crater. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec Raphaël Rousseau. À la rédaction, Jean-Philippe Véret et Christophe Magère de France Inter avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada. La semaine prochaine, le nouveau recueil de nouvelles du chanteur Raphaël et le groupe réunionnais Transcabar, entre autres Transcabar, qui jouera dans notre studio. Bon week-end et bonne semaine à tous. À bientôt. Salut. La rediffusion de la librairie francophone à 1h du matin avec le bonus créole de Jean-Christophe Ruffin. À suivre Barbatruc sur le thème du journal intime.